Excellent mardi. Merci de nous avoir choisis pour passer les deux prochaines heures. On passe la matinée ensemble. Et justement, Alain Pronkin sera avec nous, notre collègue du 98.5, pour parler en fait de ces sectes qui sont méconnues et qui ont beaucoup fait jaser quand même dans les dernières années, notamment celle de Nexium. Vous vous souvenez, la semaine dernière, arrestation d'ailleurs d'une fille, Bronfman, et aussi de ce gourou. On va en parler quand même plus en détail. Et qu'est-ce qui fait en fait qu'en 2018, malgré toute l'information qu'on peut avoir sur autant Internet, les médias sociaux, la prévention également, notamment de InfoSectes, il y a des gens qui se font prendre, qui on va aller chercher. Et là, pensez pas que c'est seulement des gens qui ont des difficultés. Au contraire, vous allez voir, il y a des ramifications très, très intéressantes et je vous dirais qui font sursauter aussi par moment. Et pour cette prochaine heure, on va parler d'emploi parce que il y a une étude de l'Institut économique de Montréal qui a recensé quand même que depuis les années 80 jusqu'à l'an dernier, le Québec aurait perdu 230 000 jeunes au profit d'autres provinces. Donc, ça veut dire des gens qui travaillent pas ici manifestement. Pourtant, quand on regarde les chiffres, là, c'est pas les emplois qui manquent et on le voit d'ailleurs juste pour cet été, là, ça fait le tour de l'actualité également, des restaurants qui sont fermés parce qu'on n'a pas de gens, justement, pour aller travailler. Des commerces également qui peinent à suffire à la demande. Pourquoi, justement, les jeunes délaissent le Québec pour aller travailler ailleurs? On va tenter, justement, d'avoir des pistes de solutions dans la prochaine heure avec nos intervenants. Bruno Leblanc, qui est directeur des affaires provinciales du Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour, merci d'être là, Bruno.
Bonjour, ça fait plaisir.
Guillaume Desnoyers, chasseur de tête et associé principal chez Desnoyers Ressources et Conseils. Bonjour.
Bonjour.
Et Marcel Boyer, économiste et auteur de l'étude, justement, publiée par l'Institut économique de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Justement, Marcel Boyer, qu'est-ce qui motive ces jeunes à quitter dans l'étude que vous avez recensée là, avec les chiffres de Statistique Canada? Il y a quand même, et on le voit, là, c'est une proportion et ça baisse à chaque fois. Là.
Oui, alors, l'étude ne portait pas sur les motivations comme telles des gens qui quittent le Québec ou qui quittent la population active d'une certaine manière. C'était plus un vœu, voir comment nos jeunes... l'augmentation ou la baisse du nombre de jeunes de moins de 45 ans évolue au Canada, entre le Québec et le reste du Canada, et en particulier l'Ontario. Et c'est là qu'on a découvert que, sur la période, les trois décennies et demie, là, depuis le début des années 80, on s'aperçoit qu'il y a 230 000 jeunes de moins de 45 ans au Québec, en 2017 par rapport au début des années 80, alors qu'il y en a 1,7 million de plus en Ontario. Et pour l'ensemble du Canada, hors Québec, c'est 2,9 millions de plus, moins 230 000 au Québec, plus 2,9 millions dans le reste du pays. L'écart est tellement considérable qu'on dit qu'il y a un problème de fond. Ce n'est pas un problème de court terme, c'est un problème qui dure depuis
dans
une trentaine
années,
d'années. Et donc, il faut se préoccuper de ça. Il faut pouvoir faire de la recherche plus fondamentale, essayer de découvrir quels sont les phénomènes qui sont derrière. On en soulève quelques hypothèses dans notre étude, mais il faudra aller beaucoup plus loin.
Mais qu'est-ce qui a fait qu'en 30 ans, évidemment, on les voyait les chiffres quand même, puis là, vous l'avez quand même démontré dans les 35 dernières années, mais qu'est-ce qui fait que oui, il y a eu des études aussi dans les 30 dernières années, mais on l'a vu quand même, c'est un phénomène. Tu sais, c'est pas nouveau, là. C'est pas quelque chose qui arrive par surprise, finalement. On aurait pu faire des choses avant, finalement.
Absolument. Et ça fait déjà plusieurs années que les économistes reviennent là-dessus en disant on a un débalancement dans notre population. On perd nos jeunes, on garde nos vieux. Et par rapport au reste du Canada. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a certainement un facteur de dynamisme économique qui est plus fort dans le reste du pays, une plus grande... Moi, je suis un économiste, donc une plus grande flexibilité dans les prix, dans les emplois. Il y a des mouvements plus importants. Les gens changent davantage d'emploi pour aller dans des emplois plus rémunérateurs, plus productifs. On s'aperçoit qu'au niveau de la productivité, le Québec est aussi... à la traîne depuis de nombreuses années. Les gains de ce que les économistes appellent le PIB réel par habitant, par exemple, une mesure de la productivité, une certaine ou de la richesse d'un pays. Mais encore là, le Québec, malgré qu'en termes absolus, le Québec va bien.
Va bien, oui, c'est ce que
j'allais dire, oui. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, comme on dit. le Québec va bien. Mais relativement au reste du pays, on est un peu... ce qui fait que sur la période des 35 ans, les derniers 35 ans, l'écart de PIB par habitant réel, en termes réels, donc on enlève l'inflation, entre le Québec et le reste du pays, s'est accru. Il a augmenté de 85 % en fait. Là, on parlait d'un écart de 6 000 $ à peu près au début des années 80. Maintenant, on est plus à 11 000. C'est beaucoup. Mais quand on ramène à une... évidemment, derrière ça, il y a des choix de politique publique, il y a des choix de, économiques. Il y a évidemment le facteur linguistique dont on va parler certainement et qui est un élément important. Mais la différence est tellement forte qu'il y a plus que le facteur linguistique derrière ça.
Mais je pense que si on veut essayer de comprendre pourquoi les jeunes Québécois partent et vont travailler ailleurs, il faut d'abord se mettre dans les souliers d'un jeune qui commence puis qui contemple un peu sa carrière. Alors, un jeune, évidemment, il a la vie devant lui. Les choix qu'il va faire aujourd'hui auront un impact pour tout le reste de sa carrière.
C'est
des trucs qui sont à long terme. Et les statistiques qui ont été relevées par l'IEDM couvrent la période 1981-2017. Alors,
ça n'est passé des affaires aussi
dans
l'actualité, dans l'ouverture sur le monde également.
C'est pratiquement un monde qui n'existe plus là, jusqu'à 30 ans. Là.
Et il y a eu une étude qui a été faite par des chercheurs de l'Université Laval en 2003 à peu près, là, donc à peu près au milieu de cette période-là. Et on a questionné les jeunes, à savoir ceux qui migraient inter-région au Québec, là, ceux qui changeaient de région, pour essayer de comprendre un peu leur motivation. Et une des réponses qui a été donnée par les jeunes, à raison de 33 % environ, c'est « moi, je veux m'en aller parce que je veux changer de style de vie ». Alors, je pense qu'il y a là-dedans quelque chose qui est le propre de la jeunesse un peu, le côté aventurier. On veut vivre une expérience unique. Ça, je pense qu'il y a quelque chose dans ces statistiques-là qu'on ne peut pas vraiment changer, qui est le propre de la jeunesse comme telle. Par contre, il y a 43 % des jeunes qui ont répondu « moi, je veux partir parce que je veux avoir plus de chances dans la vie ». Donc ça, ça veut dire des opportunités. Ça veut dire que le jeune considère qu'au Québec, où il se situe actuellement, il n'y a pas assez d'opportunités pour répondre aux aspirations. Et ça, je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce qu'évidemment, c'est très préoccupant là, quand on apprend que sur une trentaine d'années, un peu plus, là, il y a 230 000 jeunes qui ont quitté le Québec. Là, c'est extrêmement coûteux pour la société québécoise.
Guillaume Desnoyers.
Bien, c'est sûr que c'est important, puis c'est un point de vue ou c'est des faits qu'il faut garder en mémoire. Par contre, il faut voir ici là, qu'on regarde beaucoup dans le rétroviseur. Dans un monde économique là, d'il y a 30 ans qui n'existe plus, même les chiffres de 2003 sont déjà vieux, là. Faut se le dire. Puis oui, effectivement, si on regarde les sols migratoires à l'intérieur du Québec, on a ce phénomène-là. On l'a aussi au Canada. Je pense qu'effectivement, il y a probablement un niveau qui est pas compressible. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui veulent aller poursuivre leur carrière ailleurs, qui veulent aller dans l'Ouest, qui ont des compétences en demande, qui veulent aller en Europe. Ça restera toujours. La question après ça, c'est de dire comment est-ce qu'en tant que société, on est capable d'améliorer notre capacité d'attraction. Je pense que c'est intéressant, puis il faut l'avoir en tête, mais il faut aussi regarder, je pense, l'embellie des quelques dernières années, là, une amélioration sensible du marché du travail au Québec, une augmentation des naissances. Je pense que ça, c'est positif, mais il faut bâtir là-dessus pour s'assurer qu'effectivement, on arrête de perdre trop de jeunes. Mais est-ce qu'on va pouvoir un jour se dire on garde tous nos jeunes? Non, parce que je pense qu'il y a des talents là-dedans qui veulent aller s'exprimer ailleurs, puis il y a des gens qui font des choix de vie, puis des talents qui vont s'exprimer ailleurs et qui reviennent ensuite. Bien, c'est peut-être des talents uniques qu'on a la chance de récupérer aussi.
Mais des talents uniques, il faut peut-être se motiver aussi pour les récupérer, mais les garder aussi chez nous pour dire que bien, le Québec, ça peut être le fun aussi d'y travailler puis d'inciter d'autres jeunes à faire la même chose, Marcel Boyer.
Oui, justement, parce que les questions, les jeunes qui veulent aller conquérir le monde, qui veulent améliorer leur style de vie, bon, etc., oui. Mais en Ontario, les jeunes ont les mêmes aspirations que les jeunes du Québec.
C'est pas mal partout comme ça aussi.
Ben oui, aux États-Unis, dans l'Ouest. Pourquoi est-ce qu'en Ontario, en termes nets, on a aujourd'hui 1,7 million de plus de jeunes de moins de 45 ans, puis au Québec, on est moins de 230 000? Oui, il faut que l'économie québécoise soit potentiellement moins accueillante que l'économie ontarienne, d'une certaine manière, la structure de l'intégration des jeunes sur le marché du travail, les défis qu'on offre aux jeunes, même en début de carrière, peuvent être peut-être plus ouverts.
Parce qu'on ne fait pas assez de place aux jeunes ici au Québec?
Possiblement, à cause, pour différentes raisons, mais on a une structure, j'appellerais là, une culture de droits acquis d'ancienneté qui est très forte au Québec.
Ouais.
Plus forte que dans le reste du pays. Et ça vient avec le taux de syndicalisation, la couverture syndicale.
Effectivement, je pense qu'il y a une question de réglementation omniprésente au Québec là, qui joue. Parce que vous savez, le jeune là, qui commence sa carrière peut décider d'aller en emploi, mais il peut, par exemple, décider aussi de devenir entrepreneur. Mm-hmm. Ça peut être un choix de vie. Alors, quand on questionne les entrepreneurs actuels, à savoir est-ce que vous allez recommander à votre fils, à votre fille de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a 52 % des entrepreneurs québécois qui disent non. Allez pas là-dedans, il y a trop de réglementation.
Trop difficile.
C'est trop compliqué de sortir son épingle du jeu. On le voit dans plein de secteurs, on le voit dans la construction, on le voit dans l'agriculture, il y a beaucoup, beaucoup de réglementation. En fait, même les entrepreneurs, le trois quarts des entrepreneurs actuels disent qu'il y a tellement de réglementation au Québec qu'ils pensent que ça empêche des grands projets qui sont porteurs pour l'économie.
Ouais. Alors, donc, ça, au niveau des entrepreneurs, pas des travailleurs.
Ben, écoutez, ça se répercute aussi sur les travailleurs, puisque évidemment, les entreprises, c'est eux autres qui sont le vecteur de l'emploi. Alors, si on affaiblit nos entreprises avec des réglementations trop lourdes, nécessairement, on a un impact sur l'emploi indirect. Et vous savez, les jeunes, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ils se parlent partout. Ils se parlent d'une province à l'autre, ils se parlent d'un pays à l'autre même. Et c'est des choses qui circulent. On évalue constamment les opportunités. Ils entendent parler d'autres juridictions. Ils voient comment ça se passe ailleurs. Par exemple, au niveau... on n'a pas parlé de la pression fiscale qui s'exerce au Québec, là. Alors, il y a une étude, justement, l'an dernier, de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui nous apprenait que le Québec avait un taux de pression fiscale plus élevé que 25 des 35 pays de l'OCDE. Alors ça, c'est des choses qui se... C'est le montant qu'on reçoit de son chèque de paie...
Quand il baisse
fin,
pas mal, là, pour ben, on a travaillé fort, c'est sûr que ça peut avoir des répercussions, oui.
Mais ça n'empêche pas que dans les dernières années, les choses sont améliorées. Il faut faire attention de partir d'études qui datent de 30 ans puis d'appliquer des solutions maintenant. Je pense qu'il faut être capable de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Puis oui, il y a des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. Par contre, on se parle aujourd'hui de pénuries qui sont actuelles, là, qui ne datent pas de 30 ans. Puis,
ben, vous savez, la pression fiscale, là, c'est aujourd'hui. Ouais.
Oui,
mais la pression fiscale n'a pas empêché...
C'est pas mal tous les jours, quand dès que tu travailles, tu vois sur ton chèque de paye.
La pression fiscale n'a pas empêché le chômage de baisser.
Ben, le Québec, en termes relatifs, je m'excuse, mais le Québec, en termes relatifs, son prêt à les entreprises au niveau de la taxation, sa masse salariale, on est quand même 50 % plus élevé que le reste du Canada. On est plus élevé au niveau de la pression fiscale, c'est l'impôt des particuliers, tous les prélèvements d'État. Donc, si on compare la juridiction du Québec aujourd'hui, c'est plus difficile de tirer son épingle du jeu pour un jeune. Ça, c'est clair. Il va falloir s'attaquer à cette question-là. On a déjà commencé, je suis d'accord avec vous, à s'y attaquer, mais il va falloir faire encore plus si on veut garder nos jeunes.
Mais je pense que la question de la baisse du taux de chômage,
qui est un excellent point. Le Québec, on était dans des taux de chômage de 10-11 % pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on est à 6 % qui est à peu près le même taux que l'Ontario, alors que l'Ontario était déjà à 6 % quand nous, on était à 10. Dans le taux de chômage, il y a deux phénomènes. Il y a la création d'emplois, puis il y a la population qui est en âge de travailler. Alors nous, on crée moins d'emplois que le reste du Canada. Par contre, on a une population qui croît moins rapidement. Donc, à l'équilibre, il y a comme un numérateur et un dénominateur ici. Si la population ne croît pas beaucoup, ou même qu'on perd des travailleurs, on n'a pas besoin de créer beaucoup d'emplois pour faire baisser le taux de chômage.
Puis même les emplois qui sont là, on a de la difficulté à les combler.
Il y a une amélioration de la conjoncture, mais un facteur sous-jacent qui est la croissance de la main-d'œuvre, au Québec, on ne la voit pas, quoi.
Mais je comprends mes éminents collègues là, qui représentent des groupes et des idées. Mais concrètement, je me mets à la place de nos auditeurs. Puis je pense qu'il faut être plus concret. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut apporter une fois que c'est dit puis que c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on regarde en avant? Je pense que le gouvernement a fait un bel essai, une belle stratégie là, sur 5 ans. Bon, stratégie sur 47 points. Ça semble assez ambitieux. On va voir s'ils vont avoir la chance de le réaliser. Mais il y a là-dedans, je pense, des idées concrètes qui sont intéressantes. Je pense que passer de l'étude à l'action, c'est peut-être un problème qu'on a peut-être au Québec.
Oui, mais
là, exactement. Qui fait fuir peut-être des jeunes. Là.
Exactement. Quand on voit d'ailleurs toutes les commissions, les fameux dossiers, les rapports qui sont souvent tablettés. On en parle pendant une semaine, puis après ça, on les oublie. Et c'est vrai qu'au Québec, peu importe le sujet, ça semble être lourd changer, évidemment, quand on parle de fiscalité, quand on parle d'emploi, quand on parle d'entreprise, de règlement. On parlait de syndicats aussi tout à l'heure. Mm-hmm. Ça aussi, ça en est un autre sujet qui est assez difficile à changer. Et on va continuer à en parler. Si vous voulez bien, on va faire une pause. 1-866-790-9850 si vous voulez vous joindre à la conversation. On se demande ce matin pourquoi les jeunes ont décidé de quitter, de délaisser le Québec pour aller travailler ailleurs. C'est peut-être votre cas. Peut-être vous l'avez fait il y a quelques années. Vous êtes de retour ici ou vous avez pensé le faire. 1-866-790-9850. Pourquoi les jeunes délaissent le Québec pour aller travailler ailleurs? C'est la question qu'on vous pose ce matin au 1-866-790-9850. Et justement, on va parler avec un jeune qui a quitté pour aller à Vancouver, mais qui est de retour au Québec. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter le Québec pour aller travailler à l'extérieur, à Vancouver?
Moi, quand j'avais 16 ans, c'était plus l'aventure là, pour aller partir sur le pouce. Puis finalement, ben j'ai arrêté en Alberta. C'était le début du boom du pétrole.
Oui.
Donc, c'était payant. Là.
Il y avait de l'emploi en masse, oui.
Oui, c'est ça. T'sais, en 96, ici, j'avais de la misère à faire 8$ de l'heure. T'arrives là-bas, c'est 15$. La main-d'œuvre, tout le monde en cherchait. Tu te faisais arrêter. Je faisais du pouce. Le monde m'offrait des jobs sur le pouce. T'sais. Fait que j'ai collé là. Puis après ça, ben, tu sais, je suis revenu pendant ce temps-là, une fois par année, là, à la fin de l'été, tu me retournes chez nous. Tu arrives ici au mois d'octobre, puis là, tu cherches, tu trouves rien pantoute, t'appliques. Là, je parle en 96-97. Mm. Puis finalement, je suis retourné pour Noël là-bas. J'ai pas passé Noël en famille. Aussitôt j'avais un job dans un autre domaine. Je suis allé dans la restauration pour l'hiver. Puis, je te dirais, là, c'est vraiment un point de vue économique, c'est vraiment tentant. Puis, tu sais, les taxes dans les autres provinces, c'est moins élevé. Je ne suis pas de l'Ontario, mais là, je regarde pour l'Ontario, là, Ottawa, ça me tenterait là un peu.
D'aller travailler en Ontario, oui.
Ouais, ben tu sais, je suis dans le domaine de la construction, puis je vous dirais qu'au Québec, là, tu sais, c'est vraiment, c'est tellement... Fait enlever la moitié de ton paycheck quasiment en taxes, puis toutes les bébelles qui te mettent là-dessus. Puis tandis que dans les autres provinces, tu sais, je pourrais être entrepreneur. Puis, tu sais, j'ai pas besoin d'autant de papiers puis de patentes pour pouvoir aller travailler. Puis là, l'Ontario, tu regardes une ville comme Toronto, c'est plein de grues partout. Fait que tu te dis, la construction est bonne ici.
Mais là, Guillaume, est-ce que vous êtes à l'emploi présentement?
Ah ouais.
En semaine de la construction, évidemment.
Ouais, ben je suis dans les rénovations, là, parce que... j'en paye moins, là. J'en paye moins de même, mais mon salaire est moins élevé. Tu sais, je suis revenu, c'était point de vue famille, là.
Ah oui, c'est
mais,
ça, oui.
Là, je commence à... Tu sais, j'ai le goût, là. Tu sais, là, j'ai une soeur qui était à Halifax. Je checkais à Halifax aussi. Puis là aussi, là, tu sais. Ah. Puis j'ai des amis à Terre-Neuve. Puis là, le boom du pétrole, Terre-Neuve.
Ça vous incite à, ouais, ça vous incite à repartir. Ben merci beaucoup Guillaume de votre commentaire. Et je pense que c'est ce qui va revenir aussi. Je peux comprendre également quelqu'un qui est sur la construction, qui est mobile aussi, faut le dire là. Il faut qu'un jeune soit mobile et qu'il ait les capacités pour aller travailler sur la construction. C'est pas tout le monde qui est manuel non plus. Mais il reste que c'est vrai que tu arrives dans un endroit, tu te fais tout de suite engager. Quand ici, ben ça semble être plus compliqué. Le choix peut être plus facile à faire là.
Autant que monsieur, si j'ai bien compris, est parti une première fois pour des raisons d'aventure, comme je disais tout à l'heure.
Comme puis beaucoup de jeunes, oui.
Puis il est allé se frotter au système réglementaire et fiscal ailleurs. Donc, il s'est rendu compte de ce qui se passait au Québec. Je reviens là-dessus. Avoir une entreprise dans le domaine de la construction ou même dans d'autres domaines, c'est extrêmement compliqué. L'entrepreneur moyen au Québec passe 800 heures à remplir de la paperasse et à répondre à des réglementations des trois paliers de gouvernement. Tout ça, c'est des coûts que les entrepreneurs au Québec doivent supporter, que dans d'autres juridictions, on a moins à supporter. Et ça fait boule de neige, ça se répercute aussi sur la qualité des emplois. Puis là, une fois que vous avez fini tout ça, là, ben là c'est l'impôt qui passe en arrière avec un taux de pression fiscale qui est très élevé. Alors, le mot se passe, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir... Puis je dis pas qu'on s'est pas occupé de tout ça au Québec jusqu'à présent. Là, on s'en est occupé, on s'en occupe depuis plusieurs années. Mais il faut aller encore plus loin. Il y a à peu près 20 % selon l'estimation, quand on sonde nos membres, la FCI, il y a à peu près 20 % de la réglementation là, que les gens estiment inutile, qu'on pourrait enlever sans répercussion, parce que ça en prend des règles. Là, on est d'accord avec ça.
Oh oui.
Mais il y a 20 % qu'on pourrait enlever sans impact majeur. Non? Alors,
puis des règles comme quoi? Parce que, bon, Guillaume Desnoyers, vous êtes entrepreneur aussi par le fait même, avec votre entreprise. Est-ce que vous trouvez que c'est si difficile que ça?
Je voudrais rassurer nos auditeurs. Je
qui veulent se lancer en affaires.
800 heures par année à remplir la paperasse. C'est une petite organisation. Mais c'est certain qu'on est dans une société où il y a effectivement beaucoup de réglementations. Par contre, je veux dire, une fois que ça c'est dit, on fait quoi? Bon, changer des réglementations là, au Québec, on l'a vu, le temps que ça peut prendre. Je suis en accord avec le discours de mon collègue, là, mais pour les entrepreneurs qui ont des problèmes de pénurie, qui veulent recruter dans ces bassins de main-d'œuvre-là, qu'est-ce qu'on leur offre? Ben moi, je pense qu'il faut être plus concret que défendre des idées qui vont prendre 5 ans à être appliquées, là. Malheureusement, c'est un peu ça le constat. Puis oui, je pense qu'il y a différentes idées. Le gouvernement en a soumis quelques-unes, mais je pense qu'il faut regarder en avant plutôt que de regarder en arrière. Le fait est là. Effectivement, on a de la misère à attirer nos jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je trouve ça plus intéressant de l'envisager dans ce sens-là.
Bon, on va demander la question aux auditeurs d'ailleurs. Fouette, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous avez quitté le Québec pour revenir ou qu'est-ce que vous pensez de la situation?
En fait, moi, je suis ouvert dans le fond à partir du Québec, puis je reçois beaucoup d'appels. Écoutez, on parle en fait d'une personne qui a fait 7 ans d'études à l'université au Québec, donc en sciences, et puis ailleurs d'ici. Ben, écoutez, en tout, on parle de 14 ans d'études en sciences. Puis ce qui arrive, c'est que, écoutez, actuellement là, on arrive mal à trouver une stabilité d'emploi. Là, puis, c'est pas les compétences qui manquent, parce qu'à toutes les fois, c'est un manque de budget, un audit gouvernemental, je sais pas. C'est tout le temps des affaires de même. Et si je voulais aller à un endroit plus stable tel qu'un CHU ou quelque chose de même, ben c'est pas compliqué. Je vais me taper un bon 40 000 pièces avec une maîtrise. Alors, je dis pas 40 000 pièces, c'est pas de l'argent là, mais par contre, quand on étudie 14 ans à l'université,
en sciences, ouais.
On écrit 3 papiers scientifiques, etc. Et j'ose le dire, et puis on apprend en fait en ce qu'on appelle la formulation pharmaceutique, le développement de marché, le développement d'affaires, la représentation, bâtir des compagnies, faire des SOP, ce qu'on appelle en fait des quality insurance, l'assurance qualité. Apprendre l'anglais malgré nous, en fait, je suis maghrébin, moi j'arrive de l'Afrique du Nord, là. Apprendre le langage, s'adapter, je sais pas trop quoi, puis etc. Puis après ça, ben écoute, tout ce qu'il m'offre, le monsieur, ben c'est 40 000 $, je suis désolé, là. Moi, je partirai n'importe quand. C'est pas que je veux partir, j'ai visé le Québec, et je voulais être au Québec, et j'aime le Québec. Par contre, si on pouvait en fait aller ailleurs pour un 80 000 pour le double, même si le coût de la vie en fait est plus élevé, ben c'est sûr et certain qu'il y a moyen de moyenner en fait.
Ouais, vous seriez prêt à le faire, ouais.
C'est un marché difficile.
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est pas qu'on fait exprès, on veut pas. Moi personnellement, en fait, je suis pas intéressé à me délocaliser d'ici. Toute ma famille est ici, là. Je veux rien savoir de partir là-bas. Par contre, là actuellement, je tombe d'un niveau de vie qui était payé des 80 000. À un niveau de vie que là, je suis sur le chômage. Là.
Oui. Après avoir investi tant d'années, parce que c'est des sous aussi à l'université, puis c'est des sous pour le gouvernement aussi.
C'est des sous à l'université. Ben oui. Exactement ça. On nous dit, écoutez, ben là, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, etc. Je parle pas en termes d'immigration, c'est pas le contexte, là, mais je parle en fait avec mes amis très compétents en fait en termes de sciences. Je peux vous le garantir en fait qu'il y a beaucoup de compétents qui se retrouvent actuellement dans les institutions financières, là. C'est le gars, là, il a étudié des 7-8 ans à l'université en sciences. Il est dans l'institution financière parce que c'est la seule issue qu'il a eue. Le gars, il a des enfants et il faut qu'il les nourrisse, les enfants. Là.
Il n'y a pas le choix de travailler à un moment donné aussi, le gars,
Guillaume Desnoyers. Il n'y a pas le choix de travailler à un moment donné. Ben, tel que moi, je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de gérer une compagnie familiale. Là, j'essaie de faire de quoi avec. C'est zéro rentable actuellement, mais tu sais, je veux dire, j'essaie d'y aller là-dedans, et encore là, on vient de parler demain de la construction, puis ça, c'est laisse faire. Fait que,
mais
qu'est-ce qu'on fait?
C'est une situation...
Fouette, on va laisser parler Guillaume Desnoyers, oui.
Ben, c'est une situation difficile. Hein? Vous êtes vraisemblablement dans l'industrie pharmaceutique. C'est une industrie qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert au Québec, il faut se le dire. Et à un moment donné, il y a un problème d'adaptation. On continue de former des gens, l'industrie baisse, puis finalement, on se retrouve avec des surplus de main-d'œuvre qu'on ne peut pas employer. C'est un cas de sous-emploi. Puis je pense que dans les mesures concrètes qu'on tente, en tout cas, sur lesquelles on réfléchit, puis notre gouvernement semble vouloir passer à l'action, des mesures d'adaptation de notre système d'éducation pour qu'on s'adapte plus rapidement à ce genre de situation-là, parce que c'est dramatique de faire de longues études puis de se retrouver à la sortie des classes avec un marché qui est en décroissance depuis 7 ans. Par contre, on a continué d'admettre des gens dans les universités comme quand ça tournait à plein régime au début des années 2000. C'est dramatique.
Marcel Boyer.
Oui. Je pense qu'il y a un problème de réaliser le potentiel du Québec. On a parlé beaucoup tout à l'heure de la déréglementation, on a parlé des pénuries de main-d'œuvre, puis on sait que le gouvernement du Québec a émis là, récemment deux grandes politiques, une sur la déréglementation, puis une autre sur la pénurie de main-d'œuvre, toute récente. Quand on lit ça en détail, là, moi, ma réaction aux deux documents du gouvernement, c'est « Where's the beef? » Où est-ce que ça mord, ça? Parce que là, on dit, oui, on fait un comité avec les syndicats, le conseil du patronat, on fait ci, on fait ça, mais en réalité, il n'y a pas de changement dans le mode de fonctionnement.
Ouais. Ouais.
Et dans un autre document que j'ai écrit là, il y a un petit bout de temps, je disais, le Québec est mûr pour une nouvelle révolution tranquille. Il faut repenser notre façon de se donner des services, etc. Il faut ouvrir davantage au secteur privé. Le Québec est la société qui est fortement dominé par le secteur public. Puis ça fait partie aussi de la réglementation, tout ça, mais il y a une mainmise, d'une certaine manière, qui... Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas compétents, mais les incitations ne sont pas les mêmes. La conquête des marchés, elle n'est pas aussi agressive quand on est dans le secteur public que quand on est dans le secteur privé. Maintenant, et ça, c'est créateur d'emplois. C'est comme ça qu'on arrive à créer. On a parlé tout à l'heure, notre précédent...
Guillaume,
non? Il nous disait... il parlait du boom pétrolier dans l'Ouest et du boom pétrolier dans l'Est. On est comme un peu... Puis au Québec, on ne veut pas le faire, ça. On ne veut pas développer ça.
On n'a pas embarqué là-dedans, oui.
On n'a pas voulu embarquer là-dedans. Les développements Hydro-Québec, qui est quand même un potentiel considérable, à l'époque où Hydro-Québec était convoité, là, où tout le monde dans le nord-est de l'Amérique voulait l'électricité du Québec, mais on ne voulait pas en exporter de l'électricité. On voulait développer ça, mais juste pour nos propres besoins, pas trop...
Est-ce que le Québec pense trop petit, finalement?
Je pense qu'il y a un peu ce phénomène-là. C'est qu'il y a un potentiel, puis on hésite à vouloir le développer, ce potentiel.
Mon collègue parle de la stratégie du gouvernement là, sur 5 ans, là, de la stratégie nationale sur la main-d'œuvre. Puis, vous savez, c'est un peu comme l'image que je me faisais. Il y a 95 pages, 47 propositions. Puis, bon, il y a des bonnes choses là-dedans, mais voir si ça va atterrir, c'est une autre histoire. C'est un peu comme si vous aviez Marc Bergevin qui se présentait devant le micro et qui disait qu'il avait 47 propositions pour gagner la prochaine Coupe Stanley. Il y aurait probablement des sceptiques, parce qu'on se dirait tous...
C'est un peu ça aussi qu'il fait présentement.
Il y a 47 propositions, mais s'il y en avait 5 bonnes, il nous parlerait juste de ces 5 bonnes-là. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être un constat aussi d'avoir la difficulté à choisir vraiment qu'est-ce qui est prioritaire.
Ben, je pense que je suis tout à fait d'accord au niveau... La stratégie nationale, c'est la main-d'œuvre. C'est effectivement un pas dans la bonne direction. Là, on sent
pas être contre la vertu
on sent
plus,
qu'on s'en va à bonne place, mais il va falloir atterrir avec des choses vraiment concrètes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par exemple, au niveau de l'immigration, on parlait d'immigration tout à l'heure, là, il y a 100 000 postes à combler au Québec au moment où on se parle. Et ce qu'on voit, c'est que les immigrants qu'on accueille ont un taux de surqualification qui dépasse les 40. Donc, il y a un manque d'adéquation. Il y a un manque d'adéquation entre les besoins du marché du travail et le profil des immigrants. Alors, dans la stratégie, il va falloir qu'on aille plus loin pour aller, par exemple, moduler les grilles de sélection des immigrants pour tenir compte des besoins du marché du travail. Parce que les jeunes, vous savez, il y a des immigrants parmi les jeunes. Et quand on regarde les chiffres, sur l'immigration, là, le solde migratoire, là, on se rend compte qu'on a quoi? En 2009, au Québec, on avait un quota, si vous voulez, d'immigration de 49 000. Aujourd'hui, on est à peu près à 50 000. Mais quand on regarde les soldes migratoires après avoir enlevé les immigrants qui sont arrivés, mais qui sont repartis à l'international, ceux qui sont partis dans d'autres provinces, bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est passé de 40 000 à 30 000. Donc, on perd l'immigration.
Gens,
ça reflète un peu le propos de monsieur tout à l'heure. C'est comme à un moment donné, si on est surqualifié, l'entrepreneur, est-ce qu'il va être enclin à engager quelqu'un de surqualifié pour un poste en particulier? Ouais. Peut-être pas. Et si c'est le cas, ben ça va être pas mal démoralisant pour l'immigrant et peut-être là, il va considérer...
Il va avoir envie de partir aussi du Québec après avoir mis tant d'efforts. On va continuer la discussion après la pause. Vous pouvez toujours continuer à nous joindre au 1-866-790-9850. 10h40, pourquoi les jeunes délaissent le Québec pour aller travailler ailleurs? On en parle avec Bruno Leblanc, qui est directeur des affaires provinciales du Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et aussi Guillaume Desnoyers, chasseur de tête et associé principal chez Desnoyers Ressources et Conseils. Et Marcel Boyer, économiste et auteur de l'étude publiée par l'Institut économique de Montréal, justement sur ces jeunes. On parle quand même de 230 000 qui ont quitté le Québec dans les 30 dernières années. Au téléphone, on va aller parler avec Nathalie. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui. Nathalie. Moi, voilà 5 ans, j'ai quitté le Québec. J'ai fait un bac en actuariat, puis je trouvais absolument rien. Puis qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'on était 3 Noirs. Moi, je suis d'origine haïtienne de 2e génération. Puis en allant à Toronto, facilement, j'ai trouvé. Fait que moi, puis même dans les salles de nouvelles, comme là, je suis de passage à Montréal pour les vacances, je vois même pas de personnes noires qui travaillent dans les salles de nouvelles ou qui font le bulletin de nouvelles. Alors, il y a beaucoup de gens de 2e génération qui vont dans d'autres provinces parce que, en général, avec les Anglais, il n'y a pas ce problème-là.
Mmh. Donc, vous n'avez pas la même représentation. Donc, pour vous, c'est important d'avoir cette représentation-là.
Exactement. J'ai beaucoup de cousins et cousines qui ont étudié ici, que ce soit à Montréal, à McGill, mais ils ne trouvaient pas dans leur domaine ingénieur, comment on appelle ça encore, chimiste. Ils ont été dans d'autres provinces, ils ont trouvé.
Ça a été plus facile pour eux de se trouver un emploi parce qu'ils étaient peut-être mieux représentés, vous pensez, qu'au Québec?
Ben, au niveau de l'embauche, au niveau des ressources humaines, ils les ont embauchés, comme moi, en allant faire mon entrevue, parce que c'est les ressources humaines qui décident de vous embaucher ou pas. Mm-hmm. J'ai pas eu de problème. Puis ici, je galérais, c'était des temps partiels. Fait que je me suis dit, je m'en vais, j'ai rien à perdre.
Mais Marcel Boyer, je vous fais réagir là-dessus parce qu'on parlait de langue aussi qui va peut-être inciter des jeunes pour qui le Québec, c'est plus facile d'aller en Ontario à cause de la langue parce qu'ils parlent. On est maintenant bilingue, là, on apprend l'anglais quand même plus tôt, là, même si des fois on le massacre un peu. Là,
mais on voit bien que dans le cas de Nathalie, c'est pas à cause de la langue là, qu'elle est partie ou quoi. Et tout à l'heure, Bruno parlait du sol migratoire. On a un solde migratoire international. Le solde migratoire, on le décompose entre le solde international, c'est combien de personnes venant de l'étranger s'installent au Québec, combien de Québécois quittent vers l'étranger. Puis ensuite, on a le solde interprovincial. Et autant on a un solde positif important au niveau international, autant on a un solde négatif important au niveau interprovincial. Donc, ce sont des gens qui sont venus au Québec, qui ont vécu au Québec, qui sont peut-être ici depuis plusieurs générations, en fait, parce que tout à l'heure, des jeunes dont on parlait, là, y en a qui sont ici, qui ont décidé d'aller dans l'Ouest, dans l'Est, mais qui étaient ici depuis plusieurs générations. L'emploi et la population, c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Mmh. Si on crée moins d'emplois, on perd notre population. Puis si on perd notre population, on n'a pas besoin de créer autant d'emplois, puis on crée moins d'emplois parce qu'on n'a pas les travailleurs.
Finalement, on reste...
Exactement. Alors, il faut regarder beaucoup la dynamique du marché de l'emploi. Les entreprises, la création d'entreprises, le développement des grands projets. Je lisais récemment, cette semaine, que la Caisse de dépôt veut exporter son projet du REM. Bien, ça fait plusieurs années qu'on dit que la Caisse de dépôt, on dit que c'est le public. En réalité, la Caisse de dépôt, c'est une organisation plutôt privée que publique parce qu'elle gère les fonds de ses déposants et la Caisse, elle est présente partout dans le monde, dans des projets comme actionnaire. Là, elle développe un esprit entrepreneurial qui va possiblement faire beaucoup de petits, y compris aux États-Unis, où il y a un problème d'infrastructure considérable aussi. Donc, il y a à la fois Et tout à l'heure, M. Desnoyers parlait de « ça va mieux depuis quelque temps ». C'est vrai. D'ailleurs, dans l'étude, on parle de la période allant jusqu'en 2010, puis 2010-2017.
Il y a eu un bond, on l'a vu.
Il y a eu un certain bond, en particulier chez les moins de 15 ans. Chez les 15-44 ans, il y a eu une augmentation de, je veux dire, quelques chiffres, 1,2% au Québec, mais on est à 5 et 5,5% dans le reste du pays, en Ontario et dans le reste du Canada. Donc, même là, le rebond, il reste... va falloir voir s'il va se matérialiser puis qu'on a maintenant renversé la tendance.
Mais pour les emplois qui sont disponibles ici en ce moment, puis on en a parlé quand même dans les médias pour cet été, on a vu des restaurants fermés parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre, des petits commerces également pour l'industrie touristique. Également, c'était très difficile, peut-être pas nécessairement dans les grands centres, mais en région aussi. Il y a cette problématique-là également pour eux. Là, ils disent, on parle des jeunes qui s'en vont pour le Québec, qui s'en vont à l'extérieur parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, mais moi, j'en ai des emplois puis je ne suis pas capable d'en trouver des employés Est-ce que ça veut dire aussi que certains emplois sont plus difficiles ou qu'il y a des gens qui sont moins intéressés justement par certains travaux, comme la restauration, je parlais, ou même dans les champs aussi, les agriculteurs qui peinent à recruter des Québécois?
Oui, mais c'est ça, certain ce sont que... des emplois peut-être de... Si on peut parler de qualité d'emploi, ouais, là, c'est pas des emplois d'ingénieurs puis de technologues ou quoi.
Mais ça en prend quand même, c'est des revenus oui, aussi, oui.
Mais le problème de la restauration, le problème de la restauration, il est partout en Amérique du Nord. Aux ouais. États-Unis, vous vous promenez n'importe où, c'est plein d'affiches. On recrute dans la restauration. On a besoin de main-d'œuvre. Et puis, on n'en trouve pas. Les taux de chômage sont ridiculement bas. Bon,
Le problème de la restauration puis de l'hôtellerie en région, c'est la saisonnalité. Là. C'est-à-dire que c'est des emplois qui, effectivement, durent un temps. Puis, à un moment donné, la baisse de saison entraîne des baisses d'emplois. Puis, c'est effectivement fort difficile.
Bien, une des questions, par exemple, dans la stratégie nationale de la main-d'œuvre, justement, on parle de l'immigration comme étant 20 % de la solution au manque de main-d'œuvre. Comme je disais tout à l'heure, il y a 100 000 emplois dans le secteur privé actuellement qui est disponible. Dans la stratégie, on nous dit qu'au cours de la prochaine décennie, il y aura 1,3 million d'emplois qu'on va devoir combler. Et ça, c'est une question bien importante de comment est-ce qu'on va gérer nos politiques d'immigration, parce qu'effectivement, si nos calculs, la grille, soit dit en passant, ne sont pas adressés dans cette politique-là, font en sorte qu'on amène des gens surqualifiés, alors qu'on a des besoins qui s'en vont. Puis là, l'effervescence économique qu'on connaît au Québec le démontre de plus en plus. Là. Il y a bien sûr, il y a des besoins au niveau des travailleurs très qualifiés, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on a besoin de gens pour des postes plus de base, des corps de métier, dans la construction, dans la restauration. Et c'est ces gens-là qu'on doit aller chercher.
On doit les former, puis miser aussi sur ces emplois-là également.
Ouais, les former. En tout cas, je pense qu'au niveau des immigrants, c'est bien effectivement de dire qu'une partie de la solution est dans l'immigration à venir, mais il faudrait aussi être capable d'intégrer nos immigrants qui sont là, qui sont sous-employés, là, comme on entend. Je pense qu'il y a des mesures là-dedans qui sont intéressantes, mais je veux dire, la beauté de l'affaire, là, c'est que les organisations qui vont être les plus ouvertes à la diversité vont être celles qui vont réussir le mieux. Puis quand je parle de diversité, je parle des bassins de main-d'œuvre existants dans lesquels on doit être un peu plus proactif. Là. Je veux dire, les personnes handicapées, les travailleurs de 65 ans et plus, les Autochtones, évidemment, et les immigrants également, ben ça, c'est des avenues concrètes pour les organisations maintenant pour combler des postes.
Ouais.
Mais j'entends encore, puis c'est bien désolant, qu'il y a des gens d'autres ethnies qui ont énormément de difficultés puis qui ont les qualifications. Écoutez, je pense que ça prouve qu'on a encore du chemin à faire au niveau de la diversité.
Okay. Et on va continuer à en parler, d'ailleurs, après la pause, si vous me le permettez. 1-866-790-9850. Pourquoi les jeunes ont délaissé le Québec pour aller travailler à l'extérieur? 10h50, pourquoi les jeunes ont décidé de délaisser le Québec pour aller travailler à l'extérieur? Plein de raisons. Évidemment qu'on va tenter aussi, dans les prochaines minutes, de trouver des solutions du concret maintenant pour ceux qui, peut-être, sont en train de se dire, bon, mais peut-être que je devrais quitter le Québec pour aller soit en Ontario, peut-être même à l'extérieur du pays totalement. On va parler avec Philippe. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, vos enfants ont quitté pour aller dans l'Ouest canadien. C'est bien ça, Philippe?
Oui, effectivement. Moi, tu vois, mes gars sont partis, mes deux grands garçons sont partis il y a déjà 5 ans. Un est parti à 18 ans, l'autre est allé le rejoindre à 17 ans à Whistler.
C'est un classique
Un classique, oui. Whistler, c'est il y a même eu une série télévisée là-dessus, m'emmené à Radio-Canada sur l'arrivée massive des jeunes là-bas. Nécessairement, ils parlaient du trouble de logement là, pour eux dans ces environs-là. Mais là-bas, ils peuvent retrouver un emploi dans la construction à 25 $ de l'heure avec la passe de ski payée. Ils ont des avantages sociaux aussi en même temps. Quoi de plus pour un jeune là, qui demande un peu d'aventure puis qui n'a pas une immense scolarité? Ils peuvent aussi, ce que je disais à votre chercheur, c'est que moi, j'ai déjà aussi passé du temps dans l'Ouest canadien quand j'avais cet âge-là. Le téléphone coûtait cher aux parents quand on appelait à Fraser. Et aujourd'hui, là, ils peuvent communiquer avec leur petite sœur qui est ici au Québec, FaceTime, sur Facebook ou par Skype, ce qui fait que le jeune se sent encore proche de la famille. D'autant plus qu'ils peuvent jouer sur leur fameux jeu vidéo en ligne avec leurs amis du Québec.
C'est comme s'ils n'étaient pas partis finalement, donc le lien est resté.
Oui, puis je veux dire, tu vas travailler sur une montagne à Saint-Sauveur où on a la passe payée quand on fait ça ici. Mais là-bas, l'attrait des montagnes, l'attrait de l'île de Vancouver, ouais. Ils sont à 2 heures de l'île de Vancouver pour faire du surf. C'est sûr que c'est des sportifs, mais le phénomène reste le même pour le gars qui va travailler en Alberta, à Banff ou dans les puits de pétrole à Fort McMurray ou peu importe. Il y a cette proximité-là qui reste avec la famille. Moi, je parle avec mes gars régulièrement et puis je peux savoir qu'ils sont pas seuls là-bas. Il y a la vallée d'Okanagan qui attire beaucoup de jeunes l'été. Ils finissent par prendre goût à rester là-bas. La vie semble beaucoup plus légère.
Philippe, quand même, c'est pas le paradis non plus. Il faut dire que bon, il y a d'autres histoires de gens qui n'ont pas trouvé tant d'emplois et qui sont revenus aussi. Est-ce que c'est vos enfants vont décider de rester là de nombreuses années ou c'est seulement que, bon, une année ou deux, le temps de faire un peu de sous, d'avoir des découvertes et de revenir au Québec?
Oui, bien, regarde, Catherine, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils sont partis. La dernière fois qu'ils sont revenus, ils ont passé un mois et demi ici au Québec. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient partis.
Ah oui.
Et puis là, ils sont retournés. Et puis, je leur parle régulièrement. Ils se sont achetés un camper parce que le logement est difficile. Ils ont accès à des stationnements pour se garer la nuit. Des fois, ils vont se stationner. Non, c'est une vie d'aventure qu'ils ont.
Oui, oui, c'est ça.
Je comprends qu'il y en a qui trouvent que ça peut être un peu difficile. C'est pas tous les jeunes qui mordent là-dedans. Mais ils sont... Moi, je pourrais qualifier, d'après ce que j'entends, là, puis je leur parle régulièrement, ils sont plus que 2000 dans la région de Whistler, des jeunes Québécois à travailler là-bas.
Et ça veut dire qu'il y a des jeunes également qui vont décider d'y rester, s'établir, faire une famille, puis ne jamais revenir au Québec, à part que pour le temps des fêtes et 2 semaines aussi durant l'été. Merci beaucoup, Philippe, de votre appel.
Bien, écoutez, je pense que ça illustre bien un peu la difficulté d'intervenir sur un sujet comme ça. On a les chiffres qui sont là, mais quand on regarde la réalité, il y a beaucoup de cas particuliers. Je veux dire, c'est une question de style de vie. Moi, je pense que si on peut intervenir en tant que société, c'est de faciliter la transition, d'une part, là, entre les études puis le marché du travail, puis aussi s'assurer que les gens qui vont faire des études le font dans des milieux qui nous amènent, ou dans lesquels il y a des opportunités qui sont porteuses. Et ça, le dire, c'est une chose, le faire, c'est une autre. Je pense que celui qui va bien réussir va se mériter un prix Nobel, là. Mais la réalité, c'est que c'est pas un sujet sur lequel on peut intervenir facilement parce que les cas sont très, très différents les uns des autres.
Il y a quand même une réalité, si on le regarde sur le plan macro. Les économies qui ont un marché du travail qui est très, très rigide, très réglementé, là, il y a des études qui ont été faites là-dessus, ont tendance à générer plus de chômage chez les jeunes. Alors, quand on a beaucoup de conditions, on parle d'augmentation du salaire minimum, d'augmentation des jours de vacances, tout ça, quand le gouvernement vient dicter les conditions de travail aux employeurs, on enlève la flexibilité aux entreprises. Puis on leur impose de gérer des coûts, parce qu'évidemment, ces mesures-là, habituellement, ne viennent pas avec un budget. Ouais. Alors ça, c'est assez démontré. D'ailleurs, il y a une étude là, qui a été publiée. Mon collègue va dire ça fait longtemps. Là, c'était en 2004, mais quand même, ça change pas tous les 10 minutes.
Les chiffres sont quand même là.
C'est de Harvard et du MIT qui ont démontré qu'il y avait un lien et que les économies qui étaient plus rigides au niveau du marché du travail créaient plus de chômage chez les jeunes et en plus qu'elles avaient moins tendance à attirer les investissements privés. Et ça, là, quand on n'a pas d'investissement privé, on n'a pas de croissance économique ni de croissance des emplois.
Merci, Boyer.
Et j'enchaîne là-dessus. Je pense que si on est pour avoir des problèmes de croissance de main-d'œuvre, puis il semble que... Enfin, on n'est pas sorti de l'auberge, en tout cas, jusqu'à maintenant. Malgré la petite embellie qu'on connaît depuis 2010, il va falloir miser sur les investissements.
Ouais.
Il faut que la productivité de ceux qu'on va garder soit plus forte que dans le reste du pays. Mmh. Il faut qu'on mise sur les investissements dans les entreprises en particulier. Deuxièmement, il y a un bassin de gens dans le reste du Canada qui sont bilingues. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que des anglophones. Là.
Non, effectivement.
Il y a beaucoup de gens bilingues qui devraient être excités de venir au Québec.
Ben, on va souhaiter que tout ça puisse se faire dans
on
les prochaines années.
On va souhaiter qu'on les excités.
Exactement. Bruno Leblanc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Guillaume Desnoyers et Marcel Boyer, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On s'en va aux informations et on vous retrouve tout de suite après la pause.